Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Ce 23e épisode d'Asialogie va nous replonger dans l'histoire de la Chine,
Didier.
Avec Sun Yat-sen, le père de la révolution chinoise,
Okay. Considéré
comme la figure politique la plus consensuelle et admirée en Chine, comme à Taïwan.
Ah oui.
Taïwan fait partie de la Chine.
On comprend ce que tu veux dire.
Et en deuxième partie d'émission, Didier, tu vas nous parler du retour de BTS, groupe de K-pop aux millions et millions. De fans à travers le monde.
Ah, clairement, ça c'est sûr.
On va changer d'ambiance.
Oui, voilà, c'est ça. Alors deux salles, deux ambiances, on va revenir à la Chine. Et alors moi, mon ignorance, je ne connaissais pas bien ce monsieur, même pas du tout, qui était Sun Yat-sen, s'il te plaît, Corinne.
Alors Sun Yat-sen est né en 1866 et mort en 1925 et c'était l'un des hommes politiques les plus influents de l'histoire moderne de la Chine. Révolutionnaire, penseur politique, chef d'État, il a joué un rôle central dans la chute de la dynastie des Qing et dans la fondation de la Chine républicaine.
Okay.
Il est le seul à être vénéré à la fois en Chine continentale et à Taïwan, comme je disais.
Ça, c'est le plus surprenant. Ouais.
Et à être appelé le père de la Chine moderne, père de la révolution chinoise et père de la Chine moderne.
D'accord, moi je suis passé totalement à côté. Moi.
Alors Sun Yat-sen, il est né donc le 12 novembre 1866, près de Canton, sous la dynastie Qing. Et sa famille appartenait à la classe paysanne modeste. Ouais. À l'âge de 13 ans, il va rejoindre son frère aîné à Honolulu. Alors, en plein essor économique, Hawaï.
Honolulu. Moi, ça me surprend.
Chinois, là-bas.
Ouais, je savais pas non plus. Ok. Je vais apprendre des choses aujourd'hui.
Oui, et ce séjour de Sun Yat-sen va être déterminant. Parce qu'il va y découvrir la culture occidentale, les sciences, les institutions politiques démocratiques.
D'accord.
Et il va étudier dans les écoles missionnaires chrétiennes, apprendra l'anglais et se convertira plus tard au christianisme, ce qui influencera profondément sa vision morale et politique.
Ah oui.
Le christianisme a quand même été très important pour l'évolution, je dirais, politique de l'Asie.
Ok.
Les idées humanistes.
D'accord. Bon, alors, comme je suis en pleine...
du christianisme.
D'accord. Je suis en pleine découverte, là. Il va donc développer très tôt une conscience politique, j'imagine, au contact des idées occidentales.
Oui, mais avant d'agir politiquement, il va continuer ses études à Hong Kong, qui était colonie britannique.
Oui, bien sûr.
Et il va obtenir son diplôme de médecin en 1892.
Très bien.
Et il va exercer brièvement, notamment à Macao.
D'accord.
Mais il va abandonner rapidement sa carrière médicale, car pour lui, la maladie de la Chine est avant tout politique, estimant que seule une révolution radicale, pouvait sauver le pays avec pour modèle le nationalisme quand même et les modèles révolutionnaires européens et américains. Mmh. Il avait constaté dans son pays la corruption, l'inefficacité et le conservatisme de la dynastie Qing qu'il jugeait complètement incapable de moderniser la Chine face aux puissances étrangères rôdaient.
Ça avait le mérite d'être clair au moins.
Voilà.
Alors, et comment va-t-il s'y prendre pour réussir à faire la révolution alors, Corinne?
Il va retourner à Honolulu.
Ah.
Et en 1894, il va y fonder la Société pour la Régénération de la Chine, une organisation révolutionnaire pour renverser la dynastie Qing et établir une république. Donc, il a été très tôt dans cette idée-là, de faire la révolution et d'établir une république dans son pays, la Chine. Alors, sa première tentative d'insurrection, ratée, aura lieu en 1895 à Canton, Guangzhou, ce qui l'obligera à s'exiler pendant de nombreuses années et à voyager entre le Japon, les États-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est pour lever des fonds et organiser des réseaux révolutionnaires et développer un réseau international de soutien.
Ah oui.
Voilà comment il a fait sa révolution, Sun Yat-sen, au début. Et notamment, bien évidemment, il a récupéré de l'argent parmi les communautés chinoises d'outre-mer qui seront une source majeure pour son mouvement.
D'accord.
Source de financement.
Ok.
Voilà. Et petit à petit, et de l'étranger, Sun Yat-sen va conduire méthodiquement la révolution chinoise, la première, avec une stratégie combinant propagande et action militaire clandestine.
Ah oui.
Alors pour cela, bah, en 1905, il va fonder ce qu'on appelait le Tongmen Hui, une alliance qui regroupera plusieurs groupes opposés à la dynastie impériale. Cette organisation lui permettra de préparer des soulèvements armés et constituera la base du futur Kuomintang, qui jouera un rôle majeur dans la politique chinoise jusqu'à la prise du pouvoir par Mao, Didier.
Ok. Bah, quel était son programme révolutionnaire ?
Alors, son idéologie était résumée dans le programme des trois principes du peuple.
D'accord.
Nationalisme, démocratie et quelque chose de très important pour Sun Yat-sen, il était médecin quand même, c'était le bien-être social.
Okay.
Alors, ces principes ont attiré de nombreux étudiants et intellectuels chinois, particulièrement ceux formés à l'étranger, ce qui a contribué à élargir le mouvement révolutionnaire. Alors, pour lui, il avait sa définition du nationalisme, c'était l'indépendance face aux puissances étrangères qui était le gros problème de la Chine à l'époque, ne l'oublions pas. Et la démocratie, c'était pour lui la mise en place d'un gouvernement constitutionnel et le bien-être du peuple, la justice sociale et des réformes économiques. Il voyait quand même large. Et il visait à transformer la Chine en un État indépendant et prospère en combinant idées occidentales et traditions chinoises avec la volonté de moderniser sans renier l'identité nationale.
Ouais, pas mal sur le papier, quoi. Mais va-t-il faire aboutir sa révolution alors ?
Alors, oui.
Oui,
je dirais pas oui.
J'entends
non.
Oui, voilà.
C'est timide, d'accord, peut-être. Okay. Alors, après avoir infiltré l'armée pour la préparer à des insurrections qui vont petit à petit affaiblir le régime impérial, il va réussir quand même. C'est la révolte de Wuchang en 1911 qui s'était étendue rapidement à plusieurs provinces qui provoquera la chute de l'Empire, la fameuse chute du dernier empereur.
Bien sûr.
Il était aux États-Unis à ce moment-là.
D'accord.
Et cette victoire va lui permettre de revenir dans son pays et de proclamer la première République de Chine en 1912.
Oui, tout de même.
Ah oui. Et il va devenir le président provisoire de cette nouvelle République, donc le premier président de la
bien
Chine,
sûr,
quand même.
Okay.
Et cette première République va s'avérer bien fragile à cause de la faiblesse des nouvelles institutions. Parce que s'il avait fait la révolution, les institutions sur place ne lui étaient pas favorables.
D'accord.
Alors à cause des divisions internes aussi et du poids du pouvoir militaire. Alors après la chute de la dynastie Qing, la Chine était profondément fragmentée. C'est très grand quand même,
c'est
la
vrai,
Chine, on
vrai,
le
c'est
sait.
Vrai, c'est vrai.
Donc les provinces disposaient toujours d'une grande autonomie et de nombreux chefs militaires locaux, qu'on appelait encore les seigneurs de la guerre, contrôlaient complètement leur territoire.
J'imagine.
Il n'y avait pas de gouvernement central véritablement.
Il
Alors il y avait le gouvernement impérial, mais il y avait les puissances étrangères qui noyautaient.
Oui, j'imagine bien.
Alors, le gouvernement républicain ne possédait pas vraiment d'armée unifiée, ni d'administration suffisamment forte pour imposer son autorité sur l'ensemble du pays. Et dans ce contexte, Sun Yat-sen ne va pas pouvoir rester président longtemps. C'est pour ça que mon oui était timide.
Ok.
Alors, pour éviter une guerre civile et obtenir l'abdication du dernier empereur Puyi, il va accepter de céder la présidence à Yuan Shikai, un puissant chef militaire qui contrôlait l'armée du nord du pays.
Okay.
Et ainsi, Sun Yat-sen espérait garantir l'unité nationale et consolider la jeune république.
Je comprends. Ouais.
Mais une fois au pouvoir, Yuan Shikai va gouverner de manière autoritaire,
on est trahi parfois,
affaiblir les institutions démocratiques en limitant le rôle du Parlement. Il cherchera même à rétablir la monarchie à son profit en 1915 en voulant remettre Puyi sur le trône, ce qui accentuera encore plus les divisions politiques.
Oui, un gars bien, quoi.
Voilà, donc moi je propose de faire une pause musicale après toutes ces mauvaises nouvelles sur la Première République.
C'est ça ? Bah alors, faisons une petite pause.
Oui. Chanson chinoise.
D'accord.
风拂却烦乱， 有谁孤单却不期盼一个梦想的伴，相依相偎相知，爱的有没有暖，没人分享，再多的成就都不圆满，没人安慰，哭过了还是酸。我想我是海，冬天的大海，心情随风清白，潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是海，宁静的深海，不是谁都明白，胸怀被敲开，一颗小石块都可以让我澎湃。
Alors, vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. C'était Liu Fang qui nous accompagnait.
Très jolie chanson.
Oui, oui, c'est joli.
Très jolie chanson. Et
sûrement un peu trop court comme d'habitude, mais oui. En fait, je vous invite toujours à écouter les chansons en plus long après l'émission, bien sûr. On va reprendre, on va repartir sur ce que tu nous racontais par rapport à ce père de la Chine. Alors, vu ce que tu viens de m'en dire, il n'était pas au bout de ses peines pour faire une Chine démocratique quand même, ce père de la Chine.
Non, il n'était pas au bout de ses peines, Sun Yat-sen. Il a encore dû s'exiler, forcément.
Voilà.
Au Japon, cette fois, pour reprendre ses activités révolutionnaires au sein là, du Kuomintang, le parti nationaliste chinois qu'il avait fondé en 1912. Mmh. Et ce Kuomintang va devenir le principal mouvement politique visant à unifier la Chine. Très important quand même.
D'accord.
Alors, dans les années 20, toujours confronté à la division politique de la Chine, Sun va adopter une stratégie pragmatique.
Oui.
Et avec l'aide, et ça c'est très important, de l'Union soviétique, son parti va s'allier avec le Parti communiste chinois.
Oui, voilà.
Donc les nationalistes et les communistes se sont donc alliés. Mmh. Et Sun rentrera en Chine en 1917 et travaillera à la consolidation du mouvement révolutionnaire. Mais sa santé va se détériorer progressivement. Il va mourir en 1925 à Pékin d'un cancer du foie à l'âge de 58 ans.
Ah oui, t'es pas vieux.
Oui, jeune, oui. Mm-mm. Il laissera un vide politique majeur, ce qui permettra à Chiang Kai-shek, on en parlera bientôt, d'apparaître comme le nouveau chef politique du Kuomintang.
D'accord.
Mais c'est une autre histoire,
oui, bien
une
sûr.
Autre émission.
Eh oui.
Voilà. Donc aujourd'hui, Sun Yat-sen est donc vénéré comme le fondateur de la Chine moderne et le précurseur de la révolution chinoise de 1949, celle de Mao, parce que Chiang Kai-shek va s'allier à Mao.
D'accord.
Alors il est à la fois respecté par les communistes de la Chine continentale et par les nationalistes de la soi-disant République de Chine.
Oui, c'est étonnant quand même.
Voilà.
Alors, quelle a été, parce que tu nous as beaucoup parlé de ses volontés politiques, la vie personnelle de Sun Yat-sen?
On imagine facilement qu'elle n'a pas été simple,
j'imagine.
Parce qu'avec tous ses exils forcés et puis son activité politique intense quand même, sa vie privée a été compliquée, parfois critiquée, car il a eu deux épouses. Alors c'était autorisé, mais bon, ça commençait à se perdre la polygamie.
C'était plus trop à la mode.
Voilà. Alors il a d'abord épousé Lou Munchen en 1885 dans le cadre d'un mariage arrangé traditionnel, mais il passera peu de temps avec cette première épouse et rencontrera au Japon en 1913 quelqu'un de très important, Sung Xingling, issu d'une famille influente et éduquée à l'occidental, qu'il épousera en 1915 malgré leurs 28 ans d'écart.
D'accord.
C'était elle qui était plus jeune, on s'en doute un peu.
Oui, je m'en doutais. Oui.
Voilà. Et l'opposition de la famille de la mariée, qui trouvait que Sun Yat-sen était quand même un peu trop vieux.
C'est ça.
Alors, Sun Xingling deviendra une partenaire politique essentielle et elle restera une figure majeure dans la politique chinoise jusqu'à sa mort en 1981.
Ah oui.
Comme d'ailleurs ses deux sœurs, dont l'une épousera Chiang Kai-shek.
D'accord.
Donc on reparlera des sœurs aussi, des sœurs Sung.
Ah oui, mais oui, parce que tu m'intéresses. Quel rôle a-t-elle eu dans la politique chinoise? Elle est restée en Chine, donc je suppose, à t'entendre, non?
Oui, alors quelques mots
sur la famille
Sung. Oui. Qui a été l'une des familles les plus puissantes et influentes de l'histoire chinoise moderne, puisqu'elle a fait le lien entre nationalistes, communistes et milieux financiers internationaux par des mariages.
Ah oui.
D'accord. Alors, le père de Sun Xingling était un riche entrepreneur et missionnaire chrétien qui avait envoyé ses trois filles étudier aux États-Unis. C'était quand même très rare, surtout que c'était des filles.
J'imagine, oui, déjà, envoyer des filles faire des études, c'était pas mal. Déjà.
Okay. Et ses trois sœurs Sung ont chacune façonné l'histoire chinoise à leur manière. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Xingling, qui était donc la révolutionnaire qui a soutenu activement la révolution de 1949, donc la révolution de Mao. Et elle a même occupé le poste de vice-présidente de la Chine, imagine, de 59 à 1972.
D'accord.
Puis celui de présidente honoraire jusqu'en 1981. Année de sa mort. Donc quelqu'un de vénéré, elle aussi. Et tout au long de sa vie, elle a continué à incarner la continuité de l'héritage révolutionnaire de Chine dans le système communiste. Alors c'est une histoire incroyable quand même, cette famille.
Là, si tu me dis que ça fait l'objet d'une prochaine émission, je te croirais assez facilement.
Ah bah oui, il y a quoi dire sur les trois sœurs. Il y en a trois, avec trois destins incroyables.
D'accord, bah écoute, trois destins incroyables à découvrir bientôt quoi, dans Asialogie.
Voilà, bon, on va faire une exception, Didier. On ne va pas passer la pause, notre deuxième pause musicale tout de suite. Tu vas nous parler de BTS parce que le retour de BTS est annoncé et ils sont attendus par des milliers de fans ce 21 mars 2026. Donc
exactement.
C'est très bientôt.
Voilà.
Mais avant de parler de leur retour, peux-tu nous résumer leur histoire avant qu'on passe un peu de musique ?
Oui, on a déjà évoqué BTS, mais c'est important de revenir sur leur début. Le groupe des BTS, contrairement aux Beatles, a été créé de toutes pièces, on s'en souvient, en 2010 par une société de divertissement qui avait organisé des auditions de jeunes talents dans toutes les provinces coréennes. Alors, ils sont 7. RM, le leader du groupe, qui a un QI de 148.
C'est beaucoup, 148.
Oui, c'est pas mal. Il figurait du coup dans le 1,3% des meilleurs étudiants du pays lors des examens d'entrée à l'université. Autant dire que... il a du talent, cet homme-là. En tout cas, il est intelligent. Il y a Jin, qui était étudiant au cinéma. Suga, lui, né dans une famille pauvre et qui a travaillé pour payer sa scolarité. J-Hope, membre d'une troupe de danse de rue. Et alors, Jimin, major de sa promotion de danse moderne à l'université. Tout ce monde-là, ils sont assez doués. Fils de fermier.
Alors peut-être qu'on dit V ailleurs.
Enfin, peu importe. Voilà, les fans auront reconnu. Fils de fermier.
C'était Yoon, son prénom.
D'accord. Ah bah, je ne le connais pas personnellement. Il y a longtemps qu'ils sont venus. ils ont été coupés ces dernières années. Et Jung Cook est le plus jeune formé à la danse à Los Angeles, autant dire des talents. Pour rappel, c'est lui qui a chanté pour l'ouverture de la Coupe du Monde de foot en 2022 au Qatar. Bon, ils sont tous très doués, chanteurs, musiciens, acteurs, danseurs, ils savent tout faire. Et ils ont chacun, même en plus, leur carrière solo. Alors, BTS, c'est l'acronyme de Bang Tang. Alors, Sonyeon Don, qui veut dire par balle ou boy scout en coréen, quoi. D'accord.
Oui, je crois que ça veut dire par balle et boy scout.
Et boy scout.
C'est ça.
J'ai mis ou, mais c'est et. À la différence d'autres groupes de K-pop, ils écrivent et composent, je trouve ça fait la différence, et produisent eux-mêmes leurs chansons. Et on peut les considérer comme des chanteurs engagés, puisqu'ils dénoncent la pression du système scolaire, toutes les discriminations et la société coréenne conservatrice et patriarcale, on l'a évoqué maintes fois.
Oui, et ça, je pense que beaucoup ne le savent pas, que ce sont des chanteurs engagés, malgré les apparences.
C'est pas que des chanteurs à midinette, si j'osais, je dirais.
Alors, comment ils ont débuté ? Comment ça a commencé, Didier, les BTS ?
C'est à peine croyable. Aujourd'hui, en 2017, encore totalement inconnus, ils sont partis aux États-Unis pour tourner une émission de télé-réalité. Ils ont enregistré leur premier album, Love Yourself, pour être sûr d'avoir du monde, en fait, à leur premier concert gratuit. C'était gratuit. Ils vont même attirer le public en distribuant des places dans la rue. Autant dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Puis leur réputation va grandir très vite. En 2018, ils seront en haut des classements des albums et seront invités aux Nations Unies pour le lancement de la campagne de l'UNICEF, dont ils sont toujours des ambassadeurs.
C'est important, de rappeler leur engagement, car ils ont eu de l'influence et on pourrait même espérer aujourd'hui que leur message soit réentendu, Didier. En tout cas, c'est mon opinion. réunion.
Oui, oui, je la partage.
Par
oui,
le monde entier.
C'est en ça, oui, oui, notamment en 2020. Alors, ils avaient relayé un appel sur TikTok à réserver des places, je pense que les gens vont se souvenir, pour un meeting de Donald Trump à Tulsa, avec l'intention de ne pas s'y rendre. Résultat, en fait, Trump s'est retrouvé, parce qu'ils avaient coopté toutes ces places, dans une salle quasiment vide. Une humiliation. On sait qu'il adore ça. Et oui. Cette année-là, il s'était fait battre. Bon, voilà.
Ils n'étaient pas là.
Cette année-là.
Là, récemment, malheureusement.
Cette même année, en octobre, les fans de BTS et ceux de Taylor Swift s'étaient unis pour barrer la route à l'extrême droite en Argentine, mais ça n'avait malheureusement pas marché. Enfin, moi, je dis malheureusement parce que je le pense. Avant leur départ au service militaire, parce que c'est ça qui va faire qu'on les entend moins, ils ont rencontré Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter de l'augmentation des crimes de haine raciste contre les Noirs et de la discrimination anti-asiatique. Bon, avec leurs fans, à cette époque, ils avaient versé 2 millions de dollars au mouvement.
Ce qui n'est pas rien.
Bah, quand même, Black Lives Matter. Mais bon, voilà, absents en 2024, ils n'ont pu agir pour tenter de barrer la route de Trump.
Oui, alors on les attend donc avec impatience. Peut-être que ça va. Leur retour va nous faire du bien. Donc il est imminent ce retour, d'après ce que j'ai compris, Didier.
Oui, ce sera très sûrement l'événement musical le plus important de la décennie à venir. Oui, on y va.
Carrément.
Ah ouais, on y va. Allez, après ces 4 années de pause, ils reviennent officiellement avec un nouvel album intitulé Arirang, prévu pour le 20 mars, ça tu l'as dit, 2026, avec bien sûr à suivre une tournée mondiale. Alors ce retour intervient après leur dernier grand projet collectif, l'album d'anthologie Prof, sorti en 2022, qui retraçait leur carrière depuis. Les fans attendaient un nouveau projet inédit, ce qui explique l'immense excitation autour de cet album, déjà vu comme une renaissance artistique et médiatique avec une image renouvelée, vu aussi comme une volonté de redéfinir leur identité musicale. Et puis après cette période de transformation personnelle et collective. Alors, alors les fans ne s'inquiètent pas. Là, moi, je n'ai pas trouvé un extrait du nouvel album. Mmh. Ça, c'est bien normal, puisqu'il n'est pas sorti à cette heure. Mais par contre, y a des fans qui sont créatifs et qui nous proposent des petites versions, version IA, de ce que pourrait être ou ce qu'ils aimeraient que ce soit cet album. Donc, on va vous faire partager ça.
Oui, on n'en passe pas beaucoup, Didier.
Non. Seven stars born from the hungry seal. Built the throne in the sweat and the goo. No book drenched, just the blood and the ink. Watching the empires rise and bleed. They told us to follow, we started to lead. Planting a mountain from a single seed. Shadow of the palace to the Grammys and the lights. With the ghost in the machine, with the fire in the night. Dance to the rhythm of the folk in the soul. K-pop energy taking control. I don't need a crown to know.
Oui, c'est trompeur quand même.
Ah oui, c'est étonnant.
Voilà,
heureusement qu'on m'a dit que c'était l'IA, parce que moi, j'avais pas, n'étant pas un fan total, forcément, moi, j'avais pas vu la différence. Enfin, pas trop.
Oui, alors, faut dire que ce sont les fans qui s'acharnent à faire ça.
C'est ça.
Ils sont tellement
ils sont
en manque
dans l'attente, c'est
qu'ils
ça.
Imaginent.
Et voilà. C'est ça.
Alors, que sait-on de ce nouvel album, Didier, qui sort le 20 mars, et pourquoi s'appelle-t-il Arirang?
Alors oui, tu vois, tu mets les airs avec moi. Alors cet album, il est centré sur les racines et l'identité coréenne. Le titre de l'album renvoie à la chanson traditionnelle la plus célèbre des deux Corées, une chanson qui parle de la séparation, de la nostalgie et de l'espoir. Ce choix reflète la volonté du groupe de revenir à ses origines culturelles et émotionnelles. Selon leur agent, l'album explore leur identité en tant qu'artistes coréens mondiaux et évoque des émotions universelles. Bon, il comprendra 14 morceaux. Il a été enregistré en 2025 pendant la réunion progressive du groupe.
Oui.
On sait également qu'il y a pour cet album des collaborations avec des artistes très connus. On sait aussi que l'album a déjà généré plus de 4 millions de pré-sauvegardes en une seule semaine sur les plateformes de streaming. Et les pré-ventes physiques explosent les records des précédents albums de K-pop.
Alors pour la sortie de l'album, il est prévu un concert exceptionnel à Séoul le 21 mars, Didier. On parle d'un événement mondial.
Oui,
dis-nous en plus.
Tout à fait, oui, ce sera un moment historique pour la K-pop et la pop en général, car Arirang est un projet artistique global avec un concert gratuit en live diffusé en direct dans 190 pays, Corinne.
C'est
sur
énorme.
Netflix à 12h, heure française. Je pense qu'il y aura beaucoup de fans aussi en France. Ce concert sera suivi deux jours après par un documentaire avant la tournée des 82 concerts, prévu à partir du mois d'avril dans 34 villes du monde, dont
énorme
Paris,
tournée.
Bruxelles, Madrid, Londres. Enfin, le concert se déroulera au cœur du lieu le plus emblématique de Séoul, sur la place de Gwanghwamun. Bon, d'accord. Toi, t'es allé, pas moi, devant le Grand Palais. Et alors, le Grand Palais, il s'appelle
Gyeongbokgung.
Voilà, c'est plus simple comme ça. L'équivalent de nos Champs-Élysées ou Champs de Mars avec la Tour Eiffel. Moi, j'espère bien y aller un jour. Les 15 000 billets gratuits sur une zone proche de la Seine ont été ouvertes en ligne et ont été épuisés en quelques minutes. On l'imagine bien. Séoul s'attend à plus de 250 000 fans qui se rassembleront sans billets dans les zones adjacentes et dans le centre de Séoul. Et bien sûr, pour encadrer l'événement, il va falloir un dispositif très spécial, vous l'imaginez bien.
Alors BTS sera au Stade de France le 17 et le 18 juillet. Est-ce qu'il reste des places, Didier ?
La billetterie a ouvert en janvier 2026. Les billets se sont vendus extrêmement rapidement, avec un épuisement en quelques minutes
aussi
dans plusieurs pays, dont la France. Donc non, il n'y a plus de place. Et avec des files d'attente de centaines de milliers de personnes tentant d'acheter en même temps, ce qui a rendu l'accès difficile pour beaucoup. Enfin, bon, les heureux élus sont le plus souvent des membres de l'Army, hein, les super fans, c'est-à-dire des fans inscrits au fan club officiel. Aujourd'hui, il reste le marché secondaire de revente privée au prix, vous imaginez, exorbitant, avec un gros risque d'arnaque en plus, donc méfiez-vous. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et cela partout. Encore quelques mots sur le phénomène BTS. En plus de leur influence culturelle sur le plan économique, ils ont un impact énorme et rapportent beaucoup d'argent aux villes qui les accueillent et génèrent chaque année plusieurs milliards de dollars pour l'économie sud-coréenne, illustrant leur importance bien au-delà de la musique. Alors, dernière info, pour consoler ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places pour leur concert, deux diffusions sont prévues au cinéma Pathé du Mans, les 11 avril à 11h45 et les 18h encore inconnues.
Voilà. Oui, alors j'ai entendu dire que ce serait le matin parce que c'est des concerts en direct qui seront retransmis au cinéma Pathé.
D'accord.
Donc, il doit y avoir la Corée et Tokyo.
D'accord, ok.
Voilà, bon, Asialogie, c'est fini les amis. On se retrouve la semaine prochaine.
Ça marche.
Jeudi à midi, le samedi à 9h30, mercredi à 13h.
Voilà.
Et bien sûr en podcast sur Radio Alpa et sur toutes les plateformes.
C'est ça.
On vous souhaite une très bonne semaine.
Et même sur Radio Player maintenant.
Et Radio Player.
Eh ouais.
Ouais.
Ça. On devient ça claque.
Des stars.
Allez, bonne semaine. Thank you.